La collective. L'émission du collectif féministe du 8 mars d'Aubenas.
Tous les deuxièmes jeudis du mois, à 18h, sur Fréquence 7.
J'ai tendance à considérer que les femmes les plus marginalisées, à savoir les femmes pauvres, handicapées, les femmes LGBTQIA+, les femmes non blanches, doivent être au centre du féminisme parce que ce sont les torts que leur font les différentes oppressions qui doivent, pour moi, guider notre sensibilité au sort des femmes.
Soulevez-vous, faites ce dont tout le monde a besoin. Vous, vous en avez besoin. Nous, on en a besoin. La génération future qui va arriver en a besoin. Et donc, c'est maintenant.
Qui montre que les femmes ne sont pas condamnées à être les premières victimes, mais qu'elles peuvent être des combattantes de première ligne et qu'elles ont toujours joué un rôle d'avant-poste dans les révolutions sociales.
Bonjour et bienvenue sur le plateau de la collective, avec ce mois-ci Vanessa.
Salut.
Ragna.
Salut.
Et Alizée.
Salut. Et salut Hello.
Salut. Et Clara à la technique. Pour cette nouvelle émission, on va parler de l'EVARS, éducation à la vie affective et relationnelle. Pas de panique pour celles et ceux qui n'ont aucune idée de ce qui se cache derrière ces mots. C'est ce qu'on a essayé de décoder et on vous livre le résultat de nos recherches tout de suite. Mais on donne d'abord la parole à notre experte chroniqueuse si polyvalente, Vanessa.
Et mais qu'est-ce que tu viens la ramener sur l'éducation des enfants, toi ? Ok, pour nous parler chiens, chats, poneys et MST, mais l'éducation des enfants, t'es sérieuse ? Bon, Dac, c'est vrai, j'ai pas d'enfants, je veux pas d'enfants, mais en plus, breaking news, nouveau coming out radiophonique, j'aime pas les enfants. Ah grand Dieu, sombre folle ! Tu la ramènes sur la lutte contre les discriminations, puis tu balances tranquille ou bilou que t'aimes pas les enfants ? Bon, ok, c'est peut-être un peu exagéré de dire que j'aime pas les enfants. Mais faut bien avouer que je cours pas après le temps passé avec eux, que globalement, j'ai du mal à plonger dans l'imaginaire enfantin, et puis que j'ai de loin préféré trier des pommes à l'usine que faire animatrice en centre de loisirs. Suite à ce petit dialogue intérieur, je suis finalement tombée d'accord avec moi-même sur le fait que, n'y connaissant que dalle en enfant, j'allais laisser tomber cette chronique, et en bonne élève que je suis, j'ai écouté plein de podcasts sur l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, la fameuse EVARS, pour préparer le reste de l'émission. Je suis tombée sur « C'est quoi l'amour maîtresse ?» Génial podcast de Lolita Rivet, génial instit qui raconte les géniales séances d'éducation à la vie affective, relationnelle, qu'elle met en place avec sa classe de CE1. Je sais, les oreilles des académiciens français et peut-être celles de ma mère doivent saigner face à tant de génial. J'ai aussi découvert le travail de la chanteuse et dessinatrice Mylan Chapiron, elle-même victime d'inceste, qui fait des interventions avec les scolaires. Et bon, ben, elle aussi, elle est géniale. Mais j'ai aussi découvert les adversaires de l'EVARS, qui sont super forts pour instrumentaliser les peurs des familles à grand renfort de fake news, genre les instits vont apprendre à vos enfants comment se masturber. Les adversaires de l'EVARS, ils sont pas comme moi. Eux, ils se le ramènent fort avec l'amour des enfants. Leur discours, c'est qu'ils veulent protéger les enfants. Et moi, ça me plonge dans des abîmes de perplexité sur c'est quoi l'amour alors ? Et c'est quoi protéger ? Comment on peut refuser que ces enfants participent à des séances où elles vont apprendre ce qu'est le consentement ? À des séances qui vont les outiller pour prévenir les violences sexuelles. Mais bordel, c'est quoi protéger si c'est leur refuser l'accès à ça ? Je vous ai pas dit, mais au moment où j'écris cette chronique, et oui, ben, j'ai pas tenu longtemps ma résolution de pas en faire, hein, je fais un remplacement pendant un agnolage. Chaque jour, de nouveaux agneaux naissent, je donne des biberons à ceux dont la mère n'a pas de lait ou pas la fibre maternelle. Je me lève dans la nuit pour vérifier qu'il n'y a pas de mise bas difficile. Je dors par tranche de 3h30. 21h30, 1h. 3h, 6h30. Je bois des litres de café, je me nourris de croque-monsieur, j'écoute des podcasts. D'abord pour préparer l'émission, puis je renonce à toute velléité productive. J'écoute pour dormir ou pour rester éveillé. J'entends Philippe Delorme, secrétaire général de l'enseignement catholique, affirmer au micro de France Culture « L'enfant appartient aux familles ». J'apprends que Triste Tigre, le fabuleux bouquin de Neige Sino, qui parle de l'inceste dont elle a été victime, a été interdite dans le CDI d'un lycée catholique en Bretagne. Je fais chauffer des biberons, je bois des cafés, je donne des placentas à manger aux chiens. Je n'arrive pas à me débarrasser de l'odeur de teinture d'iode et de fumier. Je regarde des docus. L'histoire d'un Français, assez insupportable par ailleurs, qui retourne voir ses potes de l'Oklahoma, connus pendant un échange scolaire 10 ans plus tôt. Entre-temps, ils sont presque tous devenus trumpistes. Il retourne dans son ancien lycée, sans fenêtre, pour prévenir toute attaque terroriste, et apprend qu'un ado transgenre est mort suite à une agression dans les toilettes de ce même lycée. Je lave encore mes mains, mais l'odeur reste, et je pense à ce ranch où j'avais travaillé en Australie. J'avais appris que la proprio avait mis à la porte sa fille de 15 ans en apprenant qu'elle était lesbienne. Je dors 3h30, je bois un café, je donne des biberons à des agneaux tout chauds, j'écoute des trucs, j'essaie de réfléchir mais ça marche moyen. Je pense aux ados trans harcelés, je pense aux chiffres de l'inceste en France, entre 2 et 3 enfants par classe en moyenne, et je me demande comment c'est possible que ce qui panique certains parents, ce soit les 3 séances d'évars annuelles. Je pense à l'ado de 15 ans mis à la porte par une famille qui aime la famille, et ça sert à quoi l'amour si c'est ça l'amour? Je suis fatiguée, j'arrive pas à dormir, mais comment on dort après une plongée en Oklahoma? Je suis fatiguée, je voudrais vous faire une belle conclusion avec une super punchline, drôle et émouvante à la fois, mais bon, trop de café, trop de placenta et puis l'Oklahoma. Alors je vous laisse ce taf, je vous laisse réfléchir à comment on aime et comment on protège. Et puis peut-être que la suite de l'émission pourra vous y aider un chouille.
Merci Vanessa. Vous avez peut-être entendu dire, vu passer sur Pronote ou en zappant entre deux chaînes d'infos, que cette année, les élèves allaient avoir des cours d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle à l'école. Alors ça a peut-être fait remonter de vagues souvenirs du lycée, d'un moment où vous a parlé préservatif, sida et orientation sexuelle, ou peut-être aucun souvenir, parce qu'il y a de grandes chances pour que vous n'ayez eu droit à rien du tout. La loi qui rend obligatoire l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, elle date de 2001. Elle précise qu'une information et une éducation à la sexualité doivent être dispensées de manière progressive dans les écoles, les collèges et les lycées, à raison d'au moins 3 séances annuelles, à travers une approche globale, positive et bienveillante. Alors que vous ayez fait votre lycée avant ou après 2001, je suis à peu près sûre que vous n'avez pas eu droit à ces 3 séances annuelles. Le non-respect de cette loi, il est constaté depuis longtemps par les associations. Dans un communiqué publié le 2 décembre dernier par le planning familial SIDA Action et SOS Homophobie, les associations écrivent ainsi. 20 ans de manquements reconnus, l'État condamné pour son inaction sur l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Cette reconnaissance officielle, elle confirme ce que nos associations documentent depuis des années. Une politique publique insuffisante, sans pilotage, sans formation adéquate et largement ignorée dans les établissements scolaires. Face à cette condamnation, l'État a sorti, en février 2025, 2 circulaires. Une première précisant les programmes de l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. À partir de maintenant, on va utiliser l'acronyme EVARS. Et une deuxième circulaire censée préciser les contours de sa mise en œuvre. Et de leur côté, le planning familial, SID Action, le CIDFF et encore d'autres associations réunies dans le collectif pour une véritable éducation à la sexualité a sorti en 2023 un livre blanc avec des recommandations. Voici ce que devrait être l'EVARS selon ce livre blanc.
Adapté à l'âge et au niveau d'enseignement de chaque élève, ces séances éducatives ont pour but d'apporter aux élèves des informations objectives et des connaissances scientifiques, d'identifier les différentes dimensions de la sexualité, biologique, affective, culturelle, éthique, sociale, juridique, numérique, psychologique, de développer l'exercice de l'esprit critique, de favoriser des comportements responsables individuels et collectifs, de faire connaître les ressources spécifiques d'information, d'aide et de soutien dans et à l'extérieur de l'établissement.
Concrètement, l'idée, c'est de permettre à tous les enfants, de la maternelle au lycée, d'apprendre à respecter leur corps et celui des autres, par exemple savoir qu'ils ont le droit de dire non s'ils n'ont pas envie, d'apprendre à demander « est-ce que je peux m'asseoir à côté de toi ?» Apprendre aussi à être à l'écoute de leurs émotions et de leurs besoins, reconnaître la peur, la joie. Et puis prévenir et lutter contre les discriminations, notamment les LGBTQI-phobies. Il s'agit aussi de construire un rapport sain et positif à la sexualité et à différencier cette dernière des abus et des violences. C'est le moment de rappeler que les enfants sont les premières victimes des violences sexistes et sexuelles. Alors leur apprendre à identifier les violences, ça peut les rendre un peu moins vulnérables. En bref, l'idée de l'EVARS, c'est de donner des outils aux enfants et aux adolescents pour qu'ils puissent se protéger et s'épanouir. Ça semble quand même une super idée de donner ces moyens aux enfants. Mais de loin, les VARS, ça peut aussi faire peur. Comment vont être abordées ces questions de sexualité? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de choquer, de brusquer les élèves? Alors pour comprendre un peu mieux de quoi il s'agit et pourquoi c'est important, on a rencontré Roxane, qui travaille au planning familial de l'Ardèche et qui assure des séances au sein d'établissements scolaires.
Salut Roxane.
Salut.
Est-ce que tu peux te présenter?
Alors oui, je m'appelle Roxane et je travaille au planning familial de l'Ardèche, du coup sur l'antenne sud, donc on est plutôt entre Aubenas et les Vences. Et donc je suis animatrice de prévention, donc je fais principalement des interventions en établissement scolaire et aussi de la formation pour les professionnels, notamment des profs, des animateurs, des animatrices, etc.
Est-ce que tu peux nous dire à quelles occasions, dans le cadre du programme EVARS, est-ce qu'on fait appel au planning familial ?
Alors nous, on est sollicité par les établissements et parfois par des parents d'élèves qui souhaiteraient, en lien avec les directions, nous faire intervenir sur le programme EVARS. Mais même avant la mise en place du programme qui date de cette rentrée-là, on intervenait déjà parce que les séances EVARS, elles sont obligatoires pour les élèves depuis en fait plutôt une vingtaine d'années. Donc on intervenait déjà les années précédentes et c'est demande d'établissement ou aux parents. Et on intervient de la primaire à la fin du lycée.
Okay. Est-ce que pour vous, ces interventions, elles sont essentielles ?
Pour nous, c'est essentiel parce que c'est des sujets qui sont importants de pouvoir traiter, notamment au moment de l'adolescence, mais aussi de l'enfance, des questions de vie affective, relationnelle et sexuelle, et que c'est des choses sur lesquelles, en fait, c'est assez inégal en famille, l'éducation qu'on peut avoir à ça. Il y a des sujets qui peuvent être tabous à certains endroits, qui peuvent être tus ou qui peuvent être plus faciles à aborder, mais du coup, ça peut faire aussi une inégalité entre les enfants sur les espaces qu'ils ont pour poser des questions, avoir des réponses, s'exprimer. Et c'est notamment important pour nous de faire en milieu rural, d'aller faire des interventions dans les établissements parce que les jeunes en milieu rural, c'est plus difficile au niveau de la mobilité d'avoir accès à des services extérieurs. Quand on est dans une grosse ville, on peut aller dans une permanence ou tout ça sur un mercredi après-midi quand on est au collège ou au lycée. En milieu rural, c'est plus compliqué de se déplacer et du coup, on trouve que c'est important que les structures viennent au contact des jeunes pour qu'aussi ils sachent qu'est-ce qu'il y a comme ressources sur leur territoire, qui est-ce qu'ils peuvent contacter, et que c'est plus facile pour eux de faire lien après s'ils nous ont déjà vus. Donc pour nous, notamment en Ardèche, on trouve ça important de pouvoir aller dans les établissements. Et on trouve ça important aussi d'intervenir dans les établissements pour proposer des espaces aux élèves où ils voient des personnes extérieures, parce que c'est pas les mêmes choses qui se jouent pour aborder ces sujets-là quand on est face à un adulte qu'on connaît, qu'on va revoir au fur et à mesure de l'année, qui a un enjeu éducatif, pédagogique, comme un enseignant ou quelqu'un de l'établissement, alors que là, nous, on arrive avec une autre position extérieure et on propose un moment un peu plus neutre ou détaché de cet enjeu-là, où du coup, il y a d'autres choses qui peuvent se passer, d'autres questions poindre, et des notions d'intimité aussi qui s'abordent différemment.
Ok. Et on entend beaucoup parler des craintes des familles autour de l'EVARS. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est les craintes les plus fréquentes ?
Alors c'est vrai qu'on peut être confronté quand on fait des interventions à des craintes. Nous on comprend complètement qu'il y ait des craintes de la part des familles parce que c'est quand même des sujets qui peuvent toucher à l'intimité ou en tout cas là il y a un programme qui est mis en place depuis cette année mais avant il n'y en avait pas donc il y avait peu de repères accessibles pour les parents ou les familles sur qu'est-ce qui allait être abordé, à quel âge, pourquoi, par qui, avec quelle formation, c'était quand même pas très transparent. Et les médias, quand les médias s'en emparent, c'est plutôt pour diffuser des histoires qui sont souvent déformées et qui vont être très anecdotiques sur on a appris dans une classe à apprendre aux enfants à se masturber. En fait, c'est pas le cas, c'est pas ça qui est transmis, mais du coup, on comprend qu'il y ait des parents qui puissent avoir des craintes. On trouve ça assez légitime.
Nous aussi, on comprend mieux en effet que ça puisse affoler les personnes en charge des élèves. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre à ces craintes ?
Ce qui apparaît souvent, c'est soit des craintes qui sont diffusées par des associations contre les VARS, du coup qui diffusent des infos comme quoi on apprend la sodomie aux élèves, on leur apprend à se masturber, on va leur montrer des images pornographiques, ce qui n'est pas le cas. Donc là, on explique qu'est-ce qu'on fait pendant nos séances, que l'idée, c'est de pouvoir amener à la réflexion sur les sujets de vie affective, relationnelle et sexuelle, du coup de pouvoir débattre ensemble de c'est quoi nos représentations, qu'est-ce qu'on en pense, on explique quels outils on utilise, du coup des outils de débat, quelles infos on amène aussi, à quel moment. Il y a des craintes qui apparaissent plutôt au niveau de l'école primaire, qui sont plus liées à est-ce qu'on va devancer les demandes des enfants et les questions qu'ils auraient en répondant à des choses qui se poseraient pas, et du coup susciter soit de la curiosité ou alors les choquer, ou qu'ils soient pas encore prêts. On entend aussi beaucoup le terme. J'ai peur qu'ils perdent leur innocence, notamment par rapport au fait qu'on nomme les parties génitales. Que ça a été plusieurs fois ramené à perdre l'innocence de, par exemple, plus appeler un pénis zizi, mais savoir que ça s'appelle un pénis ou le mot vulve, un peu comme si c'était des mots d'adultes ou des mots sexualisés. Donc nous, on essaie de ramener au fait que c'est pas de la sexualité. En fait, on parle pas forcément de sexualité quand on parle d'organes génitaux, c'est aussi une partie du corps, et que c'est important de pouvoir parler de son corps avec les termes qu'on sait être aussi les termes, comme quand on parle de nos doigts, de notre visage, de notre nez, pour pouvoir aussi dire si à un moment il y a un problème, si on a mal, et que un peu savoir, pouvoir détailler de où est-ce qu'on a mal, qu'est-ce qui se passe. Et aussi pour nous, dans une démarche de prévention des violences, on trouve que c'est important de pas mettre de tabou chez les enfants sur ces sujets-là, pour qu'ils sachent aussi que c'est des choses qu'on peut aborder, et que du coup, ils puissent en parler plus facilement. Parce qu'on sait que les enfants sont les premières victimes des violences sexuelles, enfin, sont en première ligne sur ces violences sexuelles, et que bah, si en fait ils ont deux tabous à briser pour pouvoir en parler, bah, c'est encore plus dur. S'il y a un tabou de ces parties-là, ces choses-là, on n'en parle pas. Il faut déjà passer ce pas-là. En plus, parler d'une situation où souvent on leur a dit de ne pas en parler. Et du coup, que le sujet soit déjà un sujet qui soit abordable, ça permet aussi... plus facilement d'amorcer, si besoin, ces discussions-là plus tard. Quand on propose aux établissements, ou des fois les établissements, quand ils sentent qu'il y a un besoin, on peut proposer des séances à destination des parents. Donc en école primaire, on le propose quasi systématiquement. Maintenant, ce n'était pas forcément le cas avant, mais de faire avant les séances avec les enfants un temps où on va expliquer le contenu de toutes nos séances, présenter les livres avec lesquels on va venir, quelles images on va montrer... qu'est-ce qu'on va nommer, du coup aussi un temps où on peut répondre aux questions des parents ou aux craintes qu'ils auraient. Il y a aussi beaucoup la crainte qui vient de est-ce qu'on va dire aux enfants, aux garçons qui peuvent devenir des filles et aux filles qui peuvent devenir des garçons. Ça, c'est une crainte qui apparaît beaucoup en primaire, une appréhension qu'après les enfants se disent qu'ils peuvent devenir ce qu'ils veulent. Donc là, on répond aussi que nous, on ne va pas créer ça. Chez les jeunes, on va pas dire tu peux devenir une fille comme ça, mais que s'il y a un enfant qui va poser des questions, ben on va y répondre et qu'on va pas les devancer, mais aussi de se dire que pareil, on n'a pas envie que ça devienne un sujet tabou, et qu'il y a aucun moment dans ce qu'on propose en EVARS, il y a l'idée d'inciter. En fait, l'EVARS, c'est pas de l'incitation à quoi que ce soit, c'est plutôt de la prévention et de l'information, pour que les enfants, les ados, les adultes puissent savoir qu'est-ce qu'ils ont comme choix possible, qu'est-ce qu'ils ont comme droit, et qu'ensuite, là-dedans, ils puissent faire leur propre choix en sachant. Parce qu'en fait, on ne peut pas choisir quand on ne sait pas ce qui est possible pour soi, ce qu'on a droit. Donc l'idée pour nous, c'est surtout d'informer pour qu'il y ait des choix les plus éclairés. Et ensuite, on propose aussi en collège, lycée, on peut proposer des séances à destination des parents, où souvent, on leur fait vivre les outils qu'on propose... aux ados, souvent, on fait des jeux de débat mouvant avec, par exemple, des phrases sur « la jalousie est une preuve d'amour », « d'accord, pas d'accord », et du coup, en débattre aussi entre adultes, c'est intéressant, et ils peuvent vivre comme ça la manière dont on propose d'aborder ces sujets-là avec leurs enfants.
Eh ben, merci Roxane pour toutes ces infos.
Bah, de rien, merci à vous.
Vous l'avez entendu dans l'entretien, il est légitime d'avoir des peurs, des inquiétudes quant à la manière dont ces questions vont être abordées avec les enfants. Cependant, quand ces peurs sont fortement nourries et instrumentalisées par le camp conservateur, à grands coups de désinformation, ça a de vraies conséquences. Un des épisodes marquants à ce sujet, c'est l'échec des abécédaires de l'égalité en 2013. Najat Vallaud-Belkacem, alors ministre de l'Éducation, veut mettre en place des manuels pour aider les profs à lutter contre les inégalités filles et garçons. Rien de révolutionnaire, vous imaginez. Mais on est au lendemain du mariage pour tous et la droite s'empare du sujet. Lolita Rivet revient sur ce moment dans son podcast « C'est quoi l'amour maîtresse ?» avec la ministre de l'époque.
Dans un premier temps, ce qui va se passer, c'est que la presse généraliste, la presse mainstream, va plutôt bien se comporter. Ceux qui ne vont pas bien se comporter du tout, c'est les responsables de droite, enfin les irresponsables de droite. Je ne parle même pas du Rassemblement national, évidemment aussi, mais plus surprenant de la part de Républicains, qui vont vraiment venir instrumentaliser le truc parce qu'ils cherchaient à se refaire une santé après leur échec sur la loi mariage pour tous, etc.
Alors vous voyez les dessins, voilà, donc on tourne les pages, à poil le bébé, à poil la baby-sitter.
Le débat s'enflamme dans les JT, sur les radios, on continue de donner la parole à des activistes ouvertement homophobes et des responsables politiques se mettent à relayer les rumeurs.
À poil les voisins, je tourne les pages, à poil la mamie.
Jean-François Copé, alors député et président de l'UMP, le principal parti d'opposition, brandit le livre « Tous à poil » sur le plateau de télé de LCI.
À poil le chien, à poil la maîtresse.
Comme si c'était un livre prescrit par le ministère et la preuve de la dérive de l'éducation nationale.
À poil le docteur, à poil le président, directeur général, bah oui, bien sûr.
Pour moi, ça fait bascule parce qu'à partir du moment où du coup, des responsables politiques se permettent de faire ça, bah, du coup, une partie des médias va relayer aussi, enfin, je veux dire, prendre moins de gants à relayer toute cette folie. Et la folie est tellement relayée que ça prend des proportions de fou jusqu'au point où un jour, une enseignante de jouer les tours est menacée, c'est-à-dire que son nom est mis sur Internet, rendu public. Moi, je suis à ce moment-là, mais vraiment terrifiée.
Alors, Najat Vallaud-Belkacem est terrifiée, mais surtout, ça signe la fin des abécédaires. Le gouvernement abandonne en effet le projet pour calmer les esprits. Et on perd encore quelques années. Donc pour résumer, aujourd'hui, début 2026, on en est où ? On a une loi qui rend obligatoire l'éducation à la vie affective, relationnelle, dès la maternelle, et l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle à partir du collège. On a un programme censé cadrer ces séances, et le camp réactionnaire est très en forme. Mais concrètement, comment ça se passe dans les établissements ? On se penche là-dessus juste après une pause musicale.
Chaises à ton médoï. Ma petite dehors, c'est quand? J'aime mieux à t'offrir si silence et d'or. Je réveille le quartier si jamais t'as mal. Je te rendrai justice avant les cops. Parle-moi si ton ton te touche. N'ai pas peur, dis-moi, il a pas le droit. Si jamais Zenyama se touche, quand je suis pas là pour toi, quand je reviens, dis-moi.
Tu n'ouvres la bouche que pour parler ou quand je te nourris. Ne sortent pas qu'à Halloween.
jamais ta main. Je te rendrai justice avant les corps. Parle-moi si tonton te touche, n'aie pas peur, dis-moi, il n'a pas le droit. Si jamais c'est Nyama ce toujours, je suis pas là pour toi quand tu reviens.
C'était Ma Petite de Rachel Allison et Meryl. Et maintenant, on écoute du côté des enseignants Ragna, qui s'est formée récemment auprès du planning familial pour pouvoir assurer ses fameuses séances d'EVARS. Alors Ragna, d'abord, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as voulu faire cette formation ?
J'ai plusieurs réponses. Donc une, je suis prof et j'accompagne et organise depuis des années des élèves en voyage scolaire, au collège et au lycée. Et je me suis trouvée plusieurs fois dans des situations où je ne savais pas quoi répondre ou comment réagir. Et pas que réagir, bah bien réagir et en cours et en voyage. Donc des situations des fois assez gentilles et des fois plus graves. Et j'en avais un peu marre de rester la bouche ouverte à ne pas savoir quoi dire et quoi faire. Et en plus, en voyage, mes élèves ont 24 heures sur 7. Donc nous sommes dans les auberges de jeunesse, ils rencontrent leurs correspondants pour la première fois. Et on n'est pas seulement prof dans des situations comme ça. Et je pense qu'il est important de rester proche de cette génération vu le travail que je fais. Et la deuxième raison, c'est la même importance, c'est que je suis maman d'un petit garçon et j'aimerais pouvoir répondre à ses questions. J'aimerais qu'il se sente bien dans son corps, qu'il ose de me parler et qu'il soit respectueux avec ses futurs partenaires. C'est aussi mon devoir en tant que maman et surtout engagée dans le féminisme.
Et pourquoi est-ce que tu as choisi de faire cette formation avec le planning familial ?
Ah, parce que j'avais très envie d'un regard d'extérieur, donc pas trop envie de me trouver dans l'entre-soi avec les collègues de l'éducation nationale. Avoir un regard, la diversité. Et j'ai bien fait, il y avait des personnes du corps médical, du social dans le sens large, même de la culture, des personnes engagées dans les collectifs militants. Donc les échanges étaient super riches. Et la deuxième raison est que j'avais envie d'une approche d'éducation populaire. Et pareil, je n'étais pas déçue. J'ai appris plein d'outils pour aborder le sujet de la manière ludique, sans gêne, tout en rappelant aussi d'un cadre confidentiel, laisser parler les autres, ne pas interrompre, ne pas parler d'une tierce personne ou bien dans l'anonymat. Et j'ai appris par exemple beaucoup ce qu'on appelle l'écoute active. Mais je ne vais pas vous en dire plus, parce que ça vaut le coup de faire la formation.
Et comment ça va se passer dans les établissements où tu travailles ?
Alors, on était en réunion il n'y a pas longtemps. Donc, deux profs plus ou moins formés, l'infirmière scolaire, le proviseur, bien sûr, et les partenaires, donc le planning familial et le palabre. Et on s'est encore rendu compte qu'après ce qui est demandé de l'éducation nationale, on aura au total plus que 450 heures à faire pour les VARS, si on veut faire tout avec tous nos élèves. Donc plus la préparation des séances et tout ça, bien sûr avec les subventions qui baissent, les plus en plus pour les assos agréés qui peuvent intervenir comme le palabre ou le planning, et sans bien plus de l'argent libéré pour les personnes internes formées qui sont déjà pas très nombreux. Je suis par exemple la seule prof qui a fait cette formation de l'EVARS sur plus que 100 profs. Et du coup, on a décidé de commencer avec les classes de seconde en demi-groupe pour laisser la place à la discussion ou aux questions. Faire une séance déjà, préparer en amont avec le planning et le palabre et de se partager ces heures-là. C'est-à-dire qu'on intervient tous entre 8 et 10 fois quand même, pendant 1h30. Et l'idée, c'est de passer un questionnaire aux élèves avant, une fois des demi-groupes constitués, aux préférences par affinité, pardon, et pour connaître les besoins. Donc le questionnaire pour connaître les besoins et les demandes, donc on verra bien. En tout cas, il faut bien se lancer.
Alors on l'entend, ces nouvelles autour de l'EVARS, elles sont plutôt réjouissantes, mais les associations telles que SOS Homophobie et le Planning alertent sur le risque que sans moyens alloués à ce programme, ça reste une coquille vide. En effet, les assos agréés, comme le planning, sont en difficulté à cause des baisses de subventions. Donc elles ont moins de salariés qualifiés pour assurer les séances et former d'autres personnes. Et puis au sein des établissements, il n'y a pas de vraie enveloppe budgétaire dédiée à l'EVARS. Ça veut dire que c'est compliqué de faire appel à des assos extérieurs, parce que ça demande du budget, mais c'est aussi compliqué de former et de dégager des heures pour les profs qui pourraient assurer ces séances à la place des associations. Alors cette situation, elle a ouvert une brèche pour des organismes privés, plus ou moins bien intentionnés, qui proposent aux établissements scolaires des plateformes numériques qui sont censées servir d'outils pour les profs. Évidemment, c'est moins coûteux que de faire venir une asso, puisqu'il n'y a pas les moyens déployés, des intervenants formés qui viennent en présentiel assurer ces temps d'échange en instaurant un cadre très particulier. Marion Mornay, du planning familial, rappelle dans un article pour Basta que les VARS touchent des sujets intimes qu'il faut manier avec précaution et que c'est une thématique qui se vit, qui se débat. Et elle précise encore « Nous, on est formés à ouvrir des espaces d'échange sur les questions de consentement, de genre, mais aussi à recueillir la parole des jeunes. Et ça, ça ne s'improvise pas. On a très régulièrement des révélations de violence, par exemple. » C'est aussi ce dont parlait Roxane dans l'interview qu'on vous a diffusée. Et outre le risque de voir les objectifs de rentabilité passer au-dessus de la qualité des interventions, il y a un risque d'instrumentalisation de ce programme à des fins idéologiques.
Alors attendez, pouce, parce que dans ma dernière chronique, j'ai parlé de Smartbox. J'ai reçu des messages m'alertant de ne pas promouvoir cette marque parce que ça appartient à Pierre-Édouard Sterrin. Ça va les gens, je savais, j'avais juste oublié. Alors pour ceux qui savent pas, contrairement à moi, Pierrette, c'est un milliardaire qui aime l'évangile selon Saint-Luc, l'extrême droite et les balades en forêt avec son lévrier, mais pas afghan. Qui est aussi actionnaire à 34% de Lyft, entreprise qui propose des vidéos d'aide à l'éducation sexuelle, qui vient de remporter un gros contrat avec la région Rhône-Alpes pour la production de contenu destiné aux lycéens qui ne s'inscrit pas dans le programme officiel de l'éducation nationale et n'est donc pas passé en commission. Ah, quelle bonne idée de confier l'éducation sexuelle de nos jeunes à des entreprises financées par des ultra-conservateurs. Je sais pas si ça rentre dans un plan de réarmement de la France, mais si c'est ça, c'est bien vu, hein.
Donc, comme vous venez de l'entendre dans l'excellente chronique d'Amandine Lourdel diffusée sur France Inter, Lyft propose des programmes en ligne d'éducation à la sexualité destinés aux salles de classe. Ce programme comprend 6 vidéos pédagogiques permettant aux enseignants de se former puis d'animer des séances auprès des élèves sur les dangers de la pornographie. Et si on en parle, c'est que c'est localement très d'actualité puisque la région Auvergne-Rhône-Alpes a lancé un appel d'offres de 50 000 euros pour la lutte contre la pornographie au sein des collèges et lycées. Et devinez qui a remporté la timbale. C'est Lyft. Rappelons que Lyft, contrairement aux associations présentes sur le territoire telles que le planning familial, n'a pas d'agrément de l'éducation nationale. Donc c'est pour le moment 10 établissements publics et 13 établissements privés qui ont accès à cette plateforme. Et comme l'expliquait Amandine Lourdel, ce qui est très problématique, c'est que parmi les soutiens financiers de cette plateforme figure le milliardaire ultra-conservateur et anti-avortement Pierre-Édouard Sterrin. Pierre-Édouard Sterrin a récemment affirmé que son action prioritaire en France est de stimuler une politique nataliste, chrétienne et de souche européenne, et ne se cache pas de mettre sa fortune au service des idées d'extrême droite pour favoriser l'accession au pouvoir des candidats et candidates du RN et de Reconquête aux élections municipales. Son projet, nommé Périclès, est mis en lumière par un article de L'Humanité, décrit étape par étape l'installation à tous les échelons du pouvoir d'une alliance entre l'extrême droite et la droite libérale, avec un investissement de 150 millions d'euros en 10 ans de sa part. Autant dire que ce contrat avec la région est une aubaine dans le cadre de ce plan pour faire entrer des valeurs ultra-conservatrices dans les établissements scolaires. Mais l'origine du financement de cette plateforme n'est pas le seul élément problématique. Les experts et expertes et personnes ayant participé à l'élaboration de ces vidéos sont pour la plupart étroitement liées à des sphères catholiques ultra-conservatrices, prenant position contre l'avortement et proches de la manif pour tous. La plupart des intervenants et intervenantes présentées sur le site ont été formés par l'association Claire Amour et Famille. Ultra-conservatrice, essentiellement composée de femmes de la fraction catholique des classes dominantes, et qui travaille à la promotion des méthodes écologiques de régulation de la fertilité. Constituée en 1961 contre l'ouverture des premiers centres du mouvement français pour le planning familial et adossée au Vatican, cette association confessionnelle intervient dans les établissements scolaires du secteur privé afin d'y diffuser par une éducation affective, relationnelle et sexuelle des représentations de la famille hyper traditionnaliste.
Mais l'IFT n'est pas le seul organisme étroitement lié aux sphères de la droite catholique conservatrice. Financé par Sterrin et présenté comme un coup de cœur, l'association Comme je t'aime se targue d'avoir animé 1800 interventions d'Evars dans des établissements scolaires privés depuis sa création en 2018. Épinglé par Mediapart en 2022 pour son univers sexiste, homophobe et autoritaire, il promeut entre autres la complémentarité homme-femme, déconseille l'usage du préservatif. Parmi ses enseignements, il explique que le garçon a une pulsion de vie plus forte, c'est pourquoi il ne faut surtout pas provoquer son regard. Bon ben, on est bien loin du cadre et des objectifs posés autour du programme EVARS dont on parlait au début de l'émission, mais aussi de celui qui régit les interventions extérieures en milieu scolaire, qui stipule que l'intervenant extérieur doit respecter les principes fondamentaux du service public d'éducation, en particulier les principes de laïcité et de neutralité, notamment religieuse, politique ou commerciale.
Mais alors que faire en tant que responsable d'élèves scolarisés ? D'abord, rester attentif aux publications et articles concernant l'EVARS et ne pas hésiter à se renseigner sur les outils proposés par les établissements. Beaucoup de syndicats enseignants du public comme du privé sont à l'origine des alertes concernant l'instrumentalisation de l'EVARS à des fins idéologiques et politiques. Par exemple, c'est la CGT Enseignement Privé qui alerte. Ces associations ont en commun une pédagogie concentrée sur le couple hétérosexuel, l'amour durable et la lutte contre la pornographie et écartent certains objectifs pourtant l'essentiel comme l'identité de genre et la lutte contre les discriminations et les LGBTQ-phobies. Ils appellent à une grande vigilance quant aux moyens choisis pour assurer ce programme. Pour ne citer que, la FSU, la CGT, la CFDT dénoncent le risque d'instrumentalisation par des groupes ultra-conservateurs et réactionnaires. Dans un communiqué officiel, la FSU dit « Sur ce sujet, comme sur d'autres, l'école ne doit jamais reculer face aux réactionnaires et l'extrême droite. » Un autre levier d'action est d'assurer que les délégués de parents d'élèves soient sensibilisés à la question. La CGT Éducation appelle également à la vigilance de toutes et tous et recommande voter contre toute convention avec l'IFT si elle est présentée en CA, en conseil d'administration, où elle doit obligatoirement être présentée pour être adoptée.
Donc voilà, on compte sur vous et sur nous pour ne pas laisser l'IFT et compagnie prendre le contrôle de l'EVARS. Et on se dit que si ces 3 séances par an, si elles sont réellement mises en place avec les moyens nécessaires et en respectant le programme proposé, eh ben, ça pourrait peut-être changer un paquet de choses. Ça nous fait une occasion parfaite pour terminer cette émission avec une de nos idoles, Queen Annie Ernaux, qui écrivait à propos de sa mère. Dans le monde où elle avait été jeune, l'idée même de la liberté des filles ne se posait pas, sinon en termes de perdition. On ne parlait de sexualité que sur le mode de la grivoiserie interdite aux jeunes oreilles, ou du jugement social, avoir bonne ou mauvaise conduite. Elle ne m'a jamais rien dit, et je n'aurais jamais osé lui demander quoi que ce soit. La curiosité étant déjà considérée comme le début du vice. Mon angoisse, le moment venu de lui avouer que j'avais mes règles, prononcer pour la première fois ce mot devant elle, et sa rougeur en me tendant une garniture, sans m'expliquer la façon de la mettre. En écoutant les mots d'Annie Ernaux, on se dit qu'un bout de chemin a déjà été parcouru depuis son enfance, mais qu'il en reste encore du chemin. Que les VARS pourraient aider les enfants et les ados à s'épargner le poids de la honte qui a pesé sur les épaules d'Annie et des autres. Et aussi peut-être qu'un jour ils auraient le droit à un rapport apaisé et épanoui à leur corps et à la sexualité.
Doucement tombe la nuit, je me fais sucer la friandise, je me fais caresser le gardon, je me fais empeser la chemise, je me fais picorer le bonbon. Je me fais frotter la péninsule, je me fais béliner.
Et juste avant de nous quitter, quelques infos locales. Le planning familial organise le samedi 25 avril à la cantine populaire d'Aubenas une cantine de soutien à partir de 12h30. Elle sera suivie d'une AG dans l'après-midi. Et une info 8 mars. Cette année, pas de manif organisée à l'initiative du collectif sur Aubenas, mais on allie nos forces avec les Renouées, le collectif féministe de Privas, et on propose de s'organiser en convoi pour rejoindre la manif qu'elles organisent le 7 mars au matin à Privas.
plus.
Au mois prochain.
À bientôt.
À bientôt.
Come on.
Let's talk about sex, baby.
C'était La Collective, une émission du collectif féministe du 8 mars d'Aubenas, tous les 2e et 4e jeudis du mois à 18h sur Fréquence 7.
Qui va faire le ménage? Et la réponse des féministes est très bien sur le moment, elle dit « mais la révolution fera le ménage ».